On est au chapitre 5, Mishnah 4. L'élu Nishmat, c'est celui qui fait l'élu Nishmat.
Eliyahu,
Non.
ouais.
Yosef ben Beya Bismi. C'est Niftar Kayom Azé. Il ne chute pas avec trois
règles. Non. Quoi? Ah,
Shor Shayamit Kaven, la Chavero. Donc c'est un taureau qui voulait encorner son ami. Hein, comme ça, on a, chez les
son
taureaux, il y a des amis aussi. Ouais.
Son collègue alors.
Son ami, c'est un ami. Ça, il voulait. Donc, il y a un taureau, d'accord. Vous savez que vous avez du coca aussi.
Oui, je me suis dit. On a un accro à table.
Donc Shor Shayamit Kaven, la Chavero, un taureau qui voulait encorner la Chavero, donc son un autre taureau. Veika et Taïcha. Et au lieu de frapper un autre taureau, il a mal prévu son coup, il a frappé une femme.
Ah.
Bon, grâce
alors,
à Dieu, la femme est restée en vie. Mais ce qui s'est passé, Veyatsu Yeladea. À cause du coup, à cause du choc, donc apparemment c'est pas un très gros choc, mais bon, à cause du choc, la femme, Dieu préserve, a perdu ses enfants. D'accord ? Ses enfants, bon, d'ici ses enfants au pluriel.
Un enfant. Que j'ai mis au pluriel ?
Ouais.
Ils nous font voir noir le truc, ça veut dire.
Donc Veyatou Yeladea. Patour, Midne Vladot. D'accord ? Le propriétaire du taureau est quitte de payer Dme Vladot, ça veut dire la valeur des enfants. Ça veut dire que si,
c'est pas cher.
Si la femme a un dommage, il rembourse le dommage de la femme, mais il ne rembourse pas les dommages des enfants. Pourquoi ? Comment on va expliquer dans la suite de la Mishnah ? La Mishnah va nous dire que la Torah a rendu l'obligation de a donné l'obligation de payer les enfants seulement quand c'est un homme qui a frappé une femme. Et quand c'est un animal qui a frappé une femme, il n'y a pas de responsabilité sur les enfants. Sur les enfants, donc c'est-à-dire sur les enfants qui sont dans le ventre. Non,
sur l'embryon. Sur les enfants, ah d'accord,
ah, bah, oui.
Je comprenais pas là. Oui,
oui,
d'accord. Une femme qui est enceinte.
Une femme qui est enceinte.
Ah oui, d'accord. On n'a plus rien, mais comment ils savent qu'elle avait des primos ?
Bon, c'est comme ça, c'est
parce que déjà, si ça marche pour un, ça marche pour plusieurs. Enfin, on...
Je sais pas comment ça marche dans le corps de la femme. Est-ce que quand une femme a deux enfants dans le ventre, elle a plus de risques de faire une fausse couche.
Yosef Ben Beya.
Est-ce que quand une femme a deux enfants dans le ventre, elle a plus de risques. Je connais pas, je sais pas. En tout cas, la Mishnah dit Véadéa. Par contre, Véadam Shayamit Kaven la Chavero, un homme qui voulait frapper son ami. Donc là, c'est un deuxième cas. Si c'est un animal qui voulait frapper un autre animal et il a fait un mauvais coup, il a frappé une femme, dans ce cas-là, on a dit, il est responsable sur la femme et pas sur les... Enfin, le propriétaire est responsable sur la femme et pas sur les enfants. Par contre, Adam, Shayamit Kaven, Nachavero. C'est deux personnes, Dieu préserve, qui sont en train de se disputer. Ça peut arriver. Et un, il voulait frapper l'autre. Hein, on l'appelle Chavero toujours. Toujours son ami.
Et... Tu vas rester ton ami. Tu verras, en fait. Je t'invite d'ailleurs. Derrière la maison.
Donc, Veika et Aïcha, l'autre frappait son ami, il a fait un mauvais coup, il a frappé une femme. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme, cette femme-là, bon, elle n'a pas eu grand-chose.
C'est le chat dans la Torah.
D'accord. Eh bien,
deux hommes qui se bagarrent,
dans ce cas-là, Veika et Aïcha, il a frappé la femme. Veyatsu, il a Déa et ses enfants sont sortis. Meshalem, Mevladot, dans ce cas-là, il doit payer non seulement, bien sûr, le dommage de la femme, ça c'est évident, mais il doit payer également le prix des enfants. D'accord. Et ça, exactement, comme dit M. Bismuth, c'est écrit explicitement dans la Torah, dans la Parasha Mishpatim, il dit, Vechi Natsu Anashim, lorsque des hommes vont disputer, Venakfu Ishaara, et ils vont donc pousser une femme qui est enceinte, Veyatsu Yeladea et ses enfants, donc sont sortis, elle a perdu ses enfants. Enfin, le verset dit clairement, elle dit, Velo Yasson, mais que la femme n'a pas eu de malheur, c'est-à-dire que la femme n'est pas morte, mais ses enfants sont sortis. On dit, Anosh et Anash, il sera puni, il devra payer les enfants. Mais ça veut dire que seulement s'il y a eu un dommage qui a été causé par un homme. Si le dommage était causé par un animal, il n'y a pas de responsabilité sur les enfants.
D'accord ? Qui va s'opposer à ça, évidemment.
Alors, la Gemara va encore plus loin que ça. La Gemara dit qu'en vérité, c'est un peu plus loin que ça. C'est même s'il y a un taureau qui voulait frapper une femme. Enceinte.
Il frappe une autre femme.
Non, non. Et il frappe cette femme.
C'est vraiment ça. Parce qu'elle avait un manteau rouge.
Voilà, elle a un manteau rouge. D'accord ? Il veut la frapper, il a frappé. Et il se trouve que cette femme avait des enfants. Donc elle était enceinte. C'est quoi le din ?
Il s'arrête là.
D'accord ? C'est quoi le din ?
Il va s'arrêter.
Il a un problème.
C'est quoi le din ? D'accord ? Ça, il s'arrête.
Mais il est où, là ? Depuis longtemps, maintenant ?
Alors,
Il y en a avis qu'il faut l'arrêter, il y en a avis qu'il faut attendre.
Il va s'arrêter.
Ah, il vous part ?
C'est C'est quoi le din, messieurs? Allez, on perd pas le... C'est les Lounishmat... page 30, allez, prenez page 30.
Tout ça, c'est badass.
Monsieur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la nourriture, c'est un moyen ou c'est un but? Le fait de faire une bracha sur un...
C'est toujours un moyen, en vérité. Même quand on mange...
C'est un but parce que tu fais quelque chose.
C'est le bénéfice.
Vous avez du temps? Hein?
C'est un but aussi.
C'est un but aussi.
Ah, moi, pour moi, c'est un moyen, tout le temps.
Parce que pour toi, tu manges pour te nourrir.
Et pour me réjouir.
Parce que comment ça marche quand on fait les lounishmat? On prend un morceau de gâteau, on fait les lounishmat. Comment ça marche?
Ben, la bracha.
Non, c'est qu'on dit que les étincelles qu'on a récupérées, le mérite des étincelles qu'on a récupérées, qu'ils soient pour la personne.
Bien sûr.
Ah oui.
La bracha.
Donc, c'est un but aussi en soi. Mais bon, la raison, quelque part, c'est un moyen. Aussi.
Moi, j'ai acheté des bons gâteaux.
Bon,
donc.
Allez, on y va. Alors, tu veux suivre avec
Lionel?
Donc, même si c'est on est en train de dire, même si c'est un animal, même si l'animal voulait endommager directement à la femme, le propriétaire de l'animal n'a jamais la responsabilité des enfants qui étaient dans le ventre de la femme.
Pourquoi?
Maintenant, d'accord? C'est comme ça, parce que c'est une Xerat HaKatouf dans la Parasha Mishpatim. Parasha Mishpatim nous dit que la responsabilité des enfants est seulement sur un adulte, d'accord, seulement sur un adulte, sur un homme, qui est conscient qu'une femme était enceinte, et donc il a une certaine responsabilité. Sinon, il n'y a pas de responsabilité. Bon, maintenant la question qu'on se pose, c'est comment évaluer le prix d'un bébé, d'un nourrisson. Enfin, même pas d'un nourrisson, c'est d'un embryon.
Je connais ou c'est pas vrai?
D'accord. Mais oui, comment évaluer la valeur d'un embryon? Parce qu'on a dit que si c'est un homme qui a endommagé la femme, dans ce cas-là, on paye la femme, si elle n'a pas eu de dommage, on n'a pas de dommage, mais on paye le bébé. Mais combien il vaut le bébé?
Attends, embryon, mais non, mais si elle est à terme et bébé
alors,
est à
cause de chaud, ça, il n'est pas encore là.
Il n'est pas sorti encore.
Il n'est pas encore là, donc.
Alors comment on fait?
Le préjudice moral. Alors,
comment on évalue?
Donc comment elle est...
D'après vous. Alors on va se réfléchir ensemble. Comment on évalue? Il faut une technique pour évaluer.
Bon, déjà, il y a un taux pour les enfants.
En tout cas, c'est pas au poids.
D'accord?
Ah non, c'est pas. Attends, il y a un taux déjà
non,
pour les enfants.
Non, mais c'est pas ça, moi je vous défends, je veux dire, mais attends, qui vous dit qu'elle serait allée jusqu'à la fin de son terme?
En fonction de la tristesse de la femme, peut-être.
Ah non? La tristesse, bon, d'accord, c'est une chose la tristesse. Mais comment on évalue la valeur? Déjà, il faut évaluer la valeur. Et après, il y a d'autres choses. Là, vous avez raison. Après, il y a le paramètre bochette, le paramètre de la honte. D'accord? Le paramètre de la tristesse. Ça, c'est autre chose. Là, je veux rembourser le dommage. Après, on verra le reste. La honte, etc., c'est autre chose. Une femme qui a perdu son enfant en plein milieu de la rue, c'est sûr qu'elle a une honte. Donc, c'est autre chose. C'est un autre paramètre.
On est dans le contexte où c'est le short qui a endommagé.
Oui, le short endommagé.
D'accord. Mais alors, on n'est pas responsable. Pourquoi alors on va évaluer?
Le propriétaire est... Alors, très bien. Si c'est le short qui est endommagé, on a dit on n'est pas responsable.
D'accord. Yosef Ben Beya. Voilà.
Mais si c'est un homme qui est endommagé, est-ce qu'on est responsable? Amen.
Oui.
Si c'est un homme qui est endommagé, est-ce qu'on est responsable?
Oui.
On est responsable, oui. Très bien. On est responsable à hauteur de combien?
Donc on évalue quand l'homme endommage.
Ah bah oui, d'accord. Mais à hauteur de combien?
Alors
on a une marloquette, d'accord. On a un premier avis, qui est l'avis de Rabbi Meir. Il dit, Ketsat Meshalem de Mevladot, comment on calcule la valeur des enfants? Comment tu peux savoir la valeur des enfants? Shamin et Taïcha, on va évaluer la femme. Kamaï Yafa Hachelo Yalda. C'est un peu... Combien elle vaut, d'accord? Combien elle vaut avant d'avoir accouché? Ça veut dire, on va imaginer qu'on va la vendre dans le marché des servantes. C'est assez bizarre, hein, d'ailleurs, ouais. Bon, Rabbi Gamliel ne va pas être d'accord avec ça. On va imaginer qu'on va la vendre dans le marché des servantes, on dit combien on aurait vendu cette femme avec son bébé, et combien on aurait vendu sans son bébé. D'accord? Donc, Ketsad Meshalem de Vladot, Shamin et Taïcha Kama Yafa Chelo Yalda, on va évaluer la femme, combien elle valait avant qu'elle a accouché, combien tu l'aurais vendue, mais Kama Yafa Miché Yalda. D'accord? Il y a des professionnels, ça c'est pas un problème, ça. Le marché de la vente, il y a un taux, d'accord? Il y a un barème.
Ouais.
Il dit voilà, monsieur, quel âge elle a, comment elle est, etc. Ta, barème. Voilà, combien elle vaut avec l'enfant, combien elle vaut sans l'enfant.
Sacrément.
Voilà. D'accord?
Ah non, c'est vrai qu'il n'est pas...
Et donc il y a une différence. D'accord? Il y a une différence. Alors, Rachid explique qu'en vérité ici, il n'y a pas qu'une différence, il y a deux différences.
Mais là, il y a Mahloquet pour ce qui est qui?
Voilà, pour l'instant, c'est Rabbi Meir.
Attendez.
Doucement, on développe.
Oh,
t'as donné le problème, chacun est mis devant. Alors, Rachid explique, c'est intéressant ce que Rachid explique dans la Mishnah, Il dit qu'en vérité, ici, on a deux choses. On a ce qu'on appelle Dmei Vladot et Shevar Vladot. Dmei Vladot et Shevar Vladot, c'est quoi? Dmei Vladot, c'est d'abord, bien sûr, la valeur du bébé. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point aussi, c'est ce qu'on appelle Shevar Vladot. Shevar Vladot, ça veut dire quoi? C'est le fait qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est plus belle.
Elle est plus belle ou plus belle?
Plus belle.
Ah bon?
Elle est plus belle.
Rachid dit. Donc Rachid,
elle est plus en beauté. Voilà.
Non, ça veut dire qu'elle est plus rayonnante.
Ouais. Plus rayonnante, ça veut dire plus grosse.
En tout cas, il y a les deux.
Ouais,
je... Et donc Rachid dit que ça, c'est un dédommagement aussi, parce que la femme va dire maintenant je suis moins rayonnante qu'avant.
Merci.
D'accord. Donc on a Dmei Vladot, Shevar Vladot. On doit rembourser les deux. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Merci. D'accord. Donc ça veut dire que selon l'avis de Rabbi Meir, on se base sur le marché des servantes. D'accord. Le marché des servantes. Ça, c'est ce que Rashi dit. Alors, ça, c'est selon Rashi. Ah, mais Rabbi Shimon Gamliel a dit, Imken, c'est comme ça. Mishaisha Yoledet. Si tu évalues comme ça, dans ce cas-là, moi je te dis, dans ce cas-là, on ne doit rien payer. Pourquoi? Parce que Mishaisha Yoledet, Mashbachat. D'accord? Pourquoi?
C'est quoi Mashbachat?
Mashbachat. Il dit,
elle est endommagée.
Dans ce cas-là, il dit, lorsque la femme va accoucher, elle va prendre de la valeur. Pourquoi elle prend de la valeur? Il dit, c'est très simple.
De l'enfant.
Il dit, parce que non, c'est très simple. Il dit, lorsqu'une femme va accoucher, elle risque de mourir pendant l'accouchement. Mm-hmm. Donc si tu te calques sur le marché des servantes, c'est vrai qu'une femme qui est enceinte, elle a plus de valeur parce qu'elle a un bébé dans le ventre. Mais d'un autre côté, le fait qu'elle est enceinte fait que la femme elle-même a moins de valeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va accoucher, elle risque de mourir. D'accord?
Donc pertège pour celui qui l'a.
Donc du coup, dit Rabbi Shimon Gamliel, donc du coup, tu payes rien. Parce que d'un côté, elle a un bébé, mais d'un autre côté, elle risque de mourir, elle, en l'accouchant.
Oui, mais d'un côté, si la...
D'accord, donc ça fait un contre un.
Si elle a pas de bébé, tu peux penser que peut-être t'es pas sûr qu'elle peut avoir un bébé un jour.
D'accord, tu as raison, pas de problème. Mais la question qu'il pose, elle est très simple, Rabbi Shimon Gamliel. Il dit, mais c'est vrai que lorsqu'elle a perdu un bébé, il y a une valeur qui a été perdue, c'est vrai, tu as raison. Mais d'un autre côté, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que comme elle risque de mourir pendant l'accouchement, donc c'est une femme que dans le marché des servantes, elle vaut moins cher. On dit, elle veut accoucher, peut-être qu'elle va mourir quand elle va accoucher. Donc il y a un placement que je risque de perdre.
Ça arrivait souvent, ça?
D'accord. À l'époque, c'était très fréquent.
Elle peut mourir, moi, même.
Mais il n'y a pas besoin d'aller... Tu prends le siècle précédent, ça s'est arrivé.
Maintenant, dans le marché des...
Aujourd'hui, 1 sur 10 000.
Si elle meurt, c'est qui tout doute. Si elle meurt pas, c'est un gagnant.
Il y a 40 ans.
Mais encore une fois, lui dit, puisque tu te bases sur le marché... Le marché des servantes. Vous comprenez la question. Puis tu te vas sur le marché des servantes. Dans le marché des servantes, eh ben, une femme enceinte ne vaut pas forcément plus cher qu'une femme non enceinte. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle a un bébé dans le ventre, mais d'un autre côté, elle risque de mourir, elle, en accouchant. Donc c'est un contre un. Donc finalement, il n'y a pas de différence. Donc puisqu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à rien payer.
À l'époque de la Mishnah, c'était courant qu'une femme...
Très courant. Très courant, oui et non. Ouais, c'est arrivé. C'est des choses qu'on prenait en compte, quand on achetait au marché les servantes, il fallait prendre en compte tous les paramètres. D'accord? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est pas belle? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est pas forte? Est-ce qu'elle a des enfants?
Et le mari, il a rien à dire de la femme? Imagine que lui, c'était sa dernière chance.
Ça, c'est la vie. Moi, j'attendais une autre question. C'est à qui on paye cet argent-là? Disons qu'on doit payer. À qui on paye? À la femme ou au mari?
Le mari?
Elle a été endommagée, le bébé il est mort.
Là on l'a imaginé comme une servante.
Elle n'est pas un statut de servante.
Son propriétaire, entre guillemets.
On a imaginé que c'est sur le marché des servantes.
Ça c'est la vie de Rabbi Meir. Mais vous avez bien vu que Rabbi Shimon Gamliel n'est pas d'accord avec ça. Il a une très bonne question, Rabbi Shimon Gamliel. Il dit non. Moi, pour moi, une femme enceinte et une femme pas enceinte, ça a la même valeur au marché. Parce que la femme enceinte, elle risque de mourir dans l'accouchement. Donc ça veut dire qu'il va rien payer. Ou il va presque rien payer, quoi. Donc c'est pas bon. C'est pas un bon calcul. Alors comment on calcule?
Donc à la
raquette. En fait, le chor, il était quoi? C'était un mois ou...
Peu importe.
Ah bon?
Ouais. Peu importe, puisque là, on
dommageait les... Attends, je comprends bien. Un taureau fou furieux qu'à chaque fois qu'il passe dans la rue, il encorne et strictement, il a une attirance pour les femmes enceintes, il n'arrête pas de gueuler. On rien.
Ah ben ouais, pour la femme enceinte, il n'y a pas de responsabilité.
Maintenant, si toi, propriétaire, tu viens tuer le taureau de ce propriétaire, ben là, t'es hayav.
Alors, et là seulement, Shamin et Avladot, Kamain Shavi. Donc lui, Rabban Shimon Gamliel dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pas un simple calcul qu'on fait sur le marché des servantes. C'est un calcul qui est beaucoup plus humain. Ça veut dire que c'est un Beit Din qui va calculer le préjudice. Donc il va dire, voilà, on évalue que puisque la femme allait bientôt accoucher, par exemple, donc on considère que l'enfant est pratiquement fini. Donc on va essayer d'évaluer combien l'enfant valait. Pas combien la femme valait. Vous voyez la différence? Rabbi Meir, comment il a évalué? Il a dit, on a évalué la femme avec le bébé et sans le bébé. Donc on s'est calqué par rapport à la femme. Rabbi Shmuel a dit non, on se calque pas par rapport à la femme. C'est le Beit Din qui va devoir se rassembler. Et on va devoir essayer de calculer ensemble, donc le préjudice moral, etc. et tout, oui. Combien vaut l'enfant. Pas combien vaut la femme avec ou sans l'enfant, combien vaut l'enfant.
Oui, mais la femme aussi, il y a quelque chose à payer.
Non, parce que là, on parle dans un cas dans lequel la Torah dit Velo Yasson, c'est-à-dire que la femme n'a rien eu. Oh, elle a eu un coup.
Non, mais c'est pas ça, mais le choc psychologique, le fait de
faire
un enfant.
D'accord, donc, c'est la question de monsieur tout à l'heure, votre prénom.
David Nuzari.
David Nuzari. Bon, j'ai dit que là on n'est pas en train de parler ici maintenant, on n'est pas en train de parler ici de la honte, et de la tristesse, et du chômage qu'elle a eu à cause. On parle pas de ça, c'est autre chose qu'on verra après. Là, on parle du dommage. Après, on verra le reste. Parce qu'il y a plusieurs paliers dans le dommage. D'accord? Il y a Nézek, Tsahar, Chevet, on verra tout ça après si vous voulez. Oui, voilà, ouais. Là maintenant, on parle pas de la honte, on parle pas de tout ça. D'accord? Et des frais qu'elle doit aller chez le médecin, et du fait qu'après elle a peur d'avoir deux enfants, etc., etc., etc. On parle pas de ça.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux l'attaquer en justice, tu peux le déplumer, le gars.
Hein, et peut-être que la nénette, elle est maman de 4 ou 5 enfants, que tous les jours elle les lave, elle les bassine, elle regarde manger.
Ah oui. Ça. Ah non, c'est clair.
Imagine.
Ça c'est d'autres paramètres dans le dommage qu'on verra après. Là on parle du dommage à proprement parler.
Le mec il verra 20 euros.
D'accord.
Oui. Au maximum 100 euros.
Non. Ah non. Ah non, quand il y a mort.
C'est fini.
Ah oui. Alors. Et la chamine est à Bladot, Kama et Niefine. D'accord. Donc on va évaluer. Combien les enfants valent, pas combien la femme vaut avec ou sans, on va évaluer combien les enfants valent. Venoten la Baal. Et à qui on donne cet argent-là? On le donne au mari. D'accord? Ça, c'est la vie de notre Rabbi Shimon Gamliel. Vimen la Baal. Et si elle n'a pas de mari? Si elle n'a pas de mari?
Elle a des collatéraux. Un père, frère.
Si elle n'a pas de mari. Noten le Yorchav. On va donner cet argent-là aux héritiers du mari.
Du mari? De quel mari? Si elle n'a pas de mari, on vient de dire.
Si elle est enceinte, on va réfléchir ensemble. Si elle est enceinte, c'est qu'elle est enceinte d'un mari.
Sauf si elle est libertine.
D'accord, bon, on parle d'un cas normal.
Ouais, bon, c'est normal, bien sûr.
Et il faut réfléchir, on laisse dans les idées. Si elle est enceinte, c'est qu'elle a un mari.
Si elle n'a pas de mari.
Ah,
dans le cas où elle n'a pas de mari.
Pourquoi elle n'a pas de mari?
Il est mort.
Il est mort,
il était
d'accord.
Fils unique.
Mais c'est cet homme-là qui est la source de cet enfant.
D'accord. Il était fils unique.
Donc cet enfant appartient à qui?
Il aurait appartenu à son père qui est...
Il va être très loin, monsieur Gamliel. Il dit, cet enfant, il appartient à qui?
Qui est mort.
Potentiellement, il appartient... Vous comprenez la question?
Il n'y a pas de bol dans cette famille jusqu'à maintenant, vous remarquerez. Hein.
C'est un double tranchant ce qu'il dit, monsieur Gamliel. C'est-à-dire comme ça. Dans le premier avis, l'avis de Rabbi Meir, ou bien Chachami, d'après d'autres avis, on considère que tant que le bébé n'est pas né, le bébé est considéré comme dit la Gemara, Ubar Yerechimo, que l'enfant est considéré comme la côte de sa mère. Donc,
un organe.
C'est un organe de sa mère. Donc, on évalue la mère. Mais donc, dans ce cas-là, si on a endommagé la mère, ben, il faut rembourser à la mère. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Gamliel a dit non. On se calque pas sur la mère. On se calque sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il considère que l'enfant, en potentialité, bien qu'il n'ait pas encore né, on imagine combien de temps il faut avant qu'il naisse. Et donc, du coup, à qui il appartient l'enfant une fois qu'il serait né? Une fois que l'enfant était né, à qui il aurait appartenu? Il aurait appartenu au mari. Donc, on doit rembourser au mari, pas à la femme. Et vous comprenez, c'est une grande question ça. Est-ce qu'on se base sur la femme ou est-ce qu'on se base sur les enfants?
Bon, c'est maintenant on a dit, question. Elle est veuve.
Parce que quand on réfléchit, les retombées de cette question peuvent aller très très loin. À qui appartient l'enfant finalement?
Mais de toute façon, tout court.
D'accord? Oui. Bah, à qui appartient l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère? Si par exemple, on va essayer de prendre une question. Imaginez-vous, imaginez-vous qu'il y a une femme qui décide, d'accord, d'avorter du préserve. Du préserve, c'est assourd, mais elle décide d'avorter. Est-ce que son mari a son mot à dire? Elle a divorcé.
D'après le cas, c'est lui l'enfant.
Mais même si elle n'a pas divorcé.
Elle a divorcé. Est-ce que son mari a son mot, son ex a son mot à dire?
Oui. Donc l'embryon qui est resté dans le ventre de cette femme, bien qu'il ait divorcé.
C'est sourd. Est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce qu'elle a son mot à dire?
Oui.
Alors si on suit l'avis de Rabbi Meir qui dit que tant que le bébé est dans le ventre de la mère, le bébé est considéré comme Ubar Yerechimo, il est considéré comme une côte de sa mère, donc l'ex n'a plus rien à dire, c'est fini. Puisqu'il n'a plus, aucune emprise sur sa femme, donc il n'a plus aucune emprise sur le bébé, qui est une partie de sa mère. Mais si on dit, comme l'avis de Rabbi Shimon Gamliel, qui dit que potentiellement, étant donné que le bébé il vient du mari, donc il appartient déjà au mari, à tel point que même la valeur de l'enfant, de l'embryon, devrait la donner aux héritiers du mari s'il est mort, ou au mari, d'accord, s'il est là, même s'il est divorcé, ça veut dire qu'elle n'a pas son mot à dire.
Alors moi je dis qu'elle a son mot à dire.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez comment ça peut aller très très loin.
Elle a son mot à dire, puisqu'on délimite que la judéité elle vient de la mère. Donc la mère a une
partie. Ça change rien, aucun rapport.
La mère, elle a plus de propriété que le père.
On parle propriétaire, là.
D'ailleurs, quand il est né, cet enfant, d'accord, on s'aperçoit bien que la mère, elle a plus de propriété.
Alors, néanmoins, sachez que Maïmonide émet une réserve sur cette Mishnah. D'accord, dans son commentaire. Maïmonide, sur cette Mishnah. Il dit que ce principe de dire que le bébé appartient au mari, on le dit seulement si, écoutez bien ce qu'il dit Maïmonide. Vous entendez ce qu'il dit Maïmonide? Il dit que ce principe-là, on le dit seulement si le coup a été donné à la femme du vivant du mari. Et qu'après, entre-temps, le mari est mort, et là, on dit, on va le donner aux héritiers. Mais il dit que si la femme avait reçu le coup enceinte, donc bien sûr que l'enfant vient d'un mari, mais elle a reçu le coup après la mort du mari, dans ce cas-là, le bébé, il appartient entièrement à la femme. Ça, c'est l'avis de Maïmonide.
C'est le même coup qui a frappé la femme que le mari.
Pourquoi l'enfant irait aux héritiers?
Parce qu'on considère que le bébé appartient au mari.
D'accord, mais c'est les héritiers. Les héritiers, c'est quoi? Ça peut être
le père. Ça c'est la réserve qu'émet Maïmonide. Maïmonide, il émet comme réserve, il dit que la condition, c'est qu'il faut que la femme ait reçu le coup alors que le mari était toujours vivant.
Oui.
Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, ça passe directement à la femme. C'est l'avis de Maïmonide. Tosfot n'est pas d'accord avec Maïmonide. Tosfot dit non, même si la femme a reçu le coup après la mort du mari, ça irait quand même aux héritiers. Extraordinaire.
Oui, mais extraordinaire, oui, mais c'est difficile à comprendre.
Très difficile, même Maïmonide, c'est difficile à comprendre.
Il donne un droit post-mortem au mari, ça veut dire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, on considère comme une entité vivante à 100%. On considère comme si qu'il y a ici deux personnes.
Non mais c'est...
Et ça, on le voit par exemple pour les caparottes. Vous savez, quand on fait les caparottes pour la femme et son bébé, on considère comme deux entités, la femme et son bébé. Parce que c'est intéressant parce que dans la halakha encore aujourd'hui, il y a des fois dans lesquelles on considère que Ubar Yerechimo, qu'un bébé est considéré comme le nourrisson est considéré comme Yerechimo, comme la côte de sa mère, d'accord? Mais d'un autre côté, des fois, on le considère comme deux entités différentes. Sauf que la femme, elle porte le bébé.
Non, mais imagine-toi une femme qui, ça y arrive, elle a des soucis ensuite psychologiques, etc.
Oui.
Elle a deux enfants à s'occuper, son mari, il est Nistar.
Oui.
Il arrive quelque chose comme ça.
Oui.
Et l'argent, elle va aller aux héritiers.
L'argent, la valeur du bébé.
La valeur du bébé.
Oui.
Bon, sachant que ça peut être une partie infime, une partie peu importante par rapport au reste, non?
Oui, mais parce que ce que tu comprends pas ici, c'est que si on réfléchit pas comme ça, si on se calque pas sur le bébé, on se calque sur la femme, dans ce cas-là, la seule option possible, c'est de se calquer sur le marché des servantes. C'est soit tu te calques sur le bébé, donc il appartient, soit tu considères que le bébé est déjà vivant, enfin, est déjà une entité à part, donc il appartient au mari, oui. Soit tu considères que le bébé fait encore partie de sa mère, donc dans ce cas-là, il faut se calquer par rapport au marché des servantes. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'une personne, il dit, je donne ma valeur au Beth Amikdash. Paracha est mort. Je donne ma valeur au Beth Amikdash. Comment on fait pour calculer? On se calque sur le marché des esclaves.
Et ça, c'est aussi un pshat.
D'accord? Mais oui. On a beaucoup de mal à comprendre ça parce que c'est pas nos réalités aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est un marché des esclaves.
Mais si, en vérité, si. Comment le marché du travail. On donne le nombre d'années de travail. C'est comme ça, les codes des assurances. Le monsieur, il aurait travaillé pendant 30 ans, il aurait une autre famille.
Oui, mais
on va donner le salaire de 30 ans.
Un esclave a plus de rendu que le travail. C'est différent, un esclave. Parce que quand on achète un esclave, on achète l'esclave et ses enfants potentiels, et le fait qu'on va le marier, enfin, on l'achète, quoi. Alors, Aïta Shifra Venishtachera, Ogioret Patour. Alors ça, c'est encore plus compliqué. Si maintenant, la femme qui était enceinte, était une servante.
Une convertie.
Alors, attendez. C'est une servante donc cananéenne, mais qui a été libérée. C'est-à-dire que d'où il vient ce bébé? Ce bébé, il vient d'un esclave, donc elle n'a pas de mari.
Ouais, elle n'a pas de mari.
Elle n'a plus de mari, là, maintenant, parce que son mari, c'était un esclave, et il est toujours esclave, et elle a pris sa liberté. Donc elle n'a plus de mari, maintenant. Juridiquement parlant, elle n'a plus de mari.
Et donc le bébé, il appartient au propriétaire, vraiment.
Le bébé, il appartient à qui? À un mari, mais il n'y a pas de mari.
Ben oui, normalement, celui qui a acheté une esclave et qui est enceinte, le bébé...
Une esclave qui a été libérée.
Non, mais
par exemple, c'est un cas classique à l'époque, quelqu'un, il dit, bon, je vous achète madame, après, il dit, voilà, je vous libère. Elle est enceinte. D'où il vient ce bébé? D'un esclave. Donc l'esclave ne lui appartient plus. Donc maintenant la femme a reçu sa liberté. Donc, elle a plus de mari, en fait, juridiquement, elle a, apparemment, elle a plus de mari. Donc, on doit se calquer sur elle. Or, si on se calque sur elle, qu'est-ce qu'on a expliqué? Dans le marché des servantes, une femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte, selon Rabbi Shimon Gamliel, c'est la même valeur. Puisque la femme enceinte risque de mourir.
Oui.
Donc, pas tour. Fait rien.
Et on n'a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, elle est arrivée, elle était enceinte déjà, ou on peut considérer que Rav Veilot là-bas...
Ah ben non, non. Bien sûr. Non, mais Rav Veilot là-bas, bien sûr. Là-bas, son mari, c'était un esclave. Oui,
Ah oui, le fait qu'elle est...
On sait, quand elle a été libérée, elle était déjà enceinte. On sait qu'elle était enceinte.
Ça peut être son patron.
D'accord.
Qu'il a mis dehors.
Ça change pas. C'est une bonne question. Ça change pas. Une fois qu'elle a acquéri sa liberté, elle a plus de patron sur elle.
Mais le bébé,
elle est libre.
Il a été fait quand elle était pas libre.
Bien sûr.
Et ça fait
la question.
Ça peut être une juive, cette fille, qui était en esclave.
Non, là, c'est l'esclave canadienne.
Ils disent où et où?
Non. Elle est devenue juive en étant libérée.
Parce qu'il y a marqué qu'une esclave libérée.
Non, c'est autre chose. Prosélyte, c'est autre chose. Ensuite, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est quoi? Guillorette, c'est une convertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui était donc convertie, qui s'est mariée donc avec un converti, d'accord? Et que son mari est mort. Puisque son mari est mort, il n'a pas d'héritier. Ah oui, parce qu'on considère que guerre chez Nidgayer, Kekatan chez Nolad Damik. Quelqu'un qui se convertit, c'est quand même quelqu'un qui naît. C'est-à-dire qu'il est. Que ses parents, c'est qui? C'est Avraham Avinu et Sarah. Donc il n'a pas de parents. D'accord? Oui, mais il n'a pas de parents biologiques. On considère qu'il a plus de liens juridiques avec ses parents biologiques.
Il se marier avec ses parents.
D'accord?
Ouais.
Il aurait pu.
Ouais.
Il aurait pu. C'est les Rachamim qui ont interdit, bon, parce que ça se fait pas. Mais alachiquement, il aurait pu.
Techniquement, il aurait pu.
Ouais. Alors, c'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, les Rachamim l'ont interdit parce que bon, ils ont vu que ça se faisait pas, quoi. Les gens ils parlaient, ils disaient, t'as vu, c'est pareil que tu vas faire.
Sur le plan moral. Consanguinité.
Ah, c'est permis.
Ouais, mais ça fait des enfants sur
votre. C'est permis. Ça, c'est pas ça la raison que les Rachamim ont mis. Hein, la raison que les Rachamim ont mis, ils ont dit, parce que ça se fait pas, les gens vont parler. Donc en tout cas, ces gens-là, étant donné que ils n'ont pas soit d'héritier, soit de mari, dans les deux cas qu'on a mis. Dans le cas de la convertie, son mari est décédé, donc il n'a pas d'héritier. Donc il n'y a personne à qui payer. On veut payer, mais il n'y a personne à qui payer. Dans le cas de la Chifra, de la servante qui a été libérée, elle a un mari, mais son mari n'existe plus maintenant, puisque son mari est toujours esclave. Donc, on ne peut pas payer au mari, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'héritier. Donc puisqu'il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'héritier, à qui on peut payer? À la femme. Ah, si on peut payer à la femme, on est obligé de se calquer sur le marché des servantes. Dans le marché des servantes, une femme enceinte, une femme pas enceinte, ont la même valeur. Donc 0 contre 0, enfin 1 contre 1 est égal à 0.
Il n'y a pas un qui a eu pitié. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'héritier?
Qui? Dans quel cas?
Dans les
servantes?
Dans les deux cas.
Dans le cas de la convertie, il n'y a pas d'héritier.
Mais si, il peut avoir d'autres enfants.
Ah, tu as raison, il peut avoir d'autres enfants. Là, on parle d'un cas qu'il n'y a pas d'enfants. Ah. Le seul héritier aurait pu être ses frères.
Ah oui, d'accord.
D'accord? Il n'y a pas d'héritier. Ouais. Dans le cas de la servante, il y a des héritiers, mais c'est des héritiers qui sont toujours esclaves, donc ils ne sont pas héritiers.
Non.
Quand elle a pris sa liberté, c'est-à-dire qu'elle se détache complètement. Donc dans ce cas-là, Pato et les Pato, ils se retrouvent à rien payer. D'accord?
Ouais. C'est une de la fois que Rabbi Meir n'a pas raison.
Non, c'est pas qu'il n'a pas raison. On voit que, en fait, c'est pas raison par raison. On voit ici qu'il y a une manière de voir les choses, que Rabbi Meir, se base sur, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Chachamim et Rabbi Meir, ils se basent sur la mère telle qu'elle est maintenant. Donc on dit maintenant il n'y a pas de bébé, donc on considère la mère telle qu'elle est maintenant. Bon, est-ce qu'elle a un bébé, est-ce qu'elle n'a pas de bébé? On verra, tant qu'il n'est pas né, on fait comme si qu'il n'est pas là. C'est Rabbi Shimon Gamliel qui va plus loin, qui dit non, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais il va venir, donc on considère comme si qu'il va venir. C'est deux manières complètement différentes de voir les choses. Est-ce qu'on va dans le potentiel ou est-ce qu'on va dans le présent? En vérité, il y a une machloket et chacun pense qu'il a raison. C'est pas ici qu'un il a bloqué l'autre. Personne n'a bloqué l'autre. C'est que Rabbi Meir Chachamim, il se base sur l'état actuel des choses. Ils disent, nous, dans l'état actuel des choses, la femme, elle n'a pas encore le bébé, il n'est pas sorti. Donc, on considère, dans le marché des esclaves, combien on l'aurait vendu avec et sans. Ça, c'est Rabbi Meir Chachamim. Rabbi Shimon Gamliel de l'autre côté, il dit, non. Il dit, attends, on sait qu'il va naître. Probabilité qu'il va naître. Donc, par rapport à ça, le Beddin va évaluer les probabilités qui naissent. Et par rapport à ça, on va évaluer. D'accord? Voilà, c'est un exact.